Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Dossard, numéro 11 au départ, avec le Hajj Driss de Lazio.
Et on pousse sur les bâtons, je vous emmène au ski dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, mais à la place de la tartiflette, des escargots soupe à la girofle, nous allons au Maroc, dans le Haut Atlas. La neige est là, les montagnes sont belles, mais les infrastructures mériteraient nettement mieux. Florence Paracuelos jette une bouteille à la mer, c'est dans Sous les radars. 18h50, le cinéma en VO avec Eva Béton, deux films italiens ce soir, bien ancrés dans l'actualité, notamment autour des migrants. Elle vous dira ce qu'elle en a pensé. Jean-Marc Four à 18h55, mais le monde à l'envers, passion pour la Sierra Leone ce soir. Jean-Marc, qui a longtemps été une caricature de pays dangereux et malade et qui vote aujourd'hui plutôt tranquillement. Mais avant, ce sont les réfugiés palestiniens qui nous occupent maintenant que Trump a coupé une très grosse partie de l'aide américaine. On y vient tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Et cette scène, elle se passe au mois de février. On est à Gaza, une manifestation remplie notamment d'enfants qui sont scolarisés grâce aux Nations Unies. Ce qu'on entend au micro, c'est « Nous demandons aux États-Unis, en votre nom, au nom de tous les réfugiés, d'annuler cette décision au profit de la sécurité et de la stabilité de la région. » La décision dont on parle, la claque, elle est venue un peu plus tôt, c'était le 16 janvier dernier. Donald Trump qui a annoncé la réduction drastique de l'aide américaine à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Un manque à gagner donc énorme, on va parler chiffres dans un instant. Bonsoir Pierre Cranenbuhl.
Bonsoir.
Vous êtes le commissaire général de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et votre travail maintenant, c'est d'aller récupérer ce manque à gagner. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs en France. Vous venez de rencontrer Emmanuel Macron directement, avec Jean-Yves Le Drian aussi, j'imagine, ou pas, les deux à la fois?
Dans deux entretiens
séparés. Dans deux entretiens séparés. Et vous en repartez avec quoi? Est-ce que vous revenez avec un chèque?
Bon, je reviens d'abord avec un sentiment d'un très grand soutien politique, très affirmé d'abord de préoccupation pour la situation des réfugiés de Palestine, de préoccupation pour la stabilité régionale, et puis alors d'un engagement extrêmement marqué du président de la République et du ministre des Affaires étrangères pour le travail que nous faisons, et en particulier pour le travail de l'éducation, puisque le président de la République à Dakar récemment, très engagé sur les questions de l'éducation, mais très engagé aussi pour la préservation du monde et du système multilatéral. Et quand je vous parle du système multilatéral, ça peut paraître un peu abstrait, mais dans le cas de l'UNRWA, ça veut dire 240 collègues de notre agence, par exemple, à Alep, en Syrie, qui ont maintenu toutes les écoles ouvertes pendant l'ensemble du conflit. Tous mes collègues qui travaillent à Gaza, au Liban, en Cisjordanie et ailleurs, et qui sont au quotidien dans la fourniture de services essentiels.
Mais alors concrètement, parce qu'il faut parler d'un peu d'argent, l'aide américaine c'était 360 millions de dollars, grosso modo. Désormais, elle en donne plus que 60, c'est ce que dit Donald Trump. En termes de manque à gagner, c'est énorme. Nous, l'Union européenne est juste derrière et la France en donne 8. Concrètement, là, un Emmanuel Macron, un Jean-Yves Le Drian, est-ce que ça vous dit d'accord, on augmente le chèque ou pas? Est-ce qu'ils vous ont dit des choses aussi concrètes que ça?
Ils ont pris un engagement très fort. D'abord, le ministère des Affaires étrangères va se rendre personnellement à une conférence ministérielle extraordinaire qui a lieu la semaine prochaine à Rome, dans laquelle nous allons faire un travail collectif avec tous les États membres des Nations Unies pour précisément surmonter ce manque à gagner, qui, vous le dites à juste titre, est énorme. Nous dépensons 1,2, 1,3 milliards de dollars par an, 300 millions de coupes, c'est énorme. Et concrètement, qu'est-ce qui est en jeu en fait?
Excusez-moi, parce qu'on va venir à ce qui est en jeu et on va parler de ce que vous faites, mais moi je voudrais savoir si on vous a vraiment promis de l'argent supplémentaire. Est-ce que c'est ça que vous êtes venu chercher? Oui. Est-ce que vous l'avez eu?
Alors il y a un engagement qui est pris d'explorer toutes les pistes possibles pour une augmentation de la contribution française, c'est ce que j'ai entendu au ministère des Affaires étrangères, et le président de la République a été très fort sur l'aspect de l'éducation, explorer les pistes dans ce domaine aussi. Pour moi, ça c'était un message essentiel et il a été très marqué et j'en suis très reconnaissant.
Parce que vous étiez en Arabie Saoudite il y a encore quelques jours pour la même chose, vous vous promenez, j'allais dire, enfin vous allez d'une capitale à l'autre. Est-ce que c'est un appel au don ou un appel au secours au final que vous faites?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est un appel au don, mais c'est surtout un rappel de la valeur essentielle des activités dans un monde moyen-oriental tellement déstabilisé, tellement déstructuré. Imaginez que 500 000 élèves que nous avons dans nos écoles, tout à coup, n'auraient plus accès à l'éducation dans un monde qui se radicalise et où les populations se déplacent quand elles manquent de services. C'est évidemment un facteur très important. Je l'ai formulé comme ça au président de la République. J'ai dit, en fait, il nous faut un plan de sauvegarde de notre système d'éducation. L'UNRWA est la seule agence qui fournit des services directs d'éducation. Nous gérons 700 écoles au Moyen-Orient pour un demi-million d'élèves. Ça, c'est un bien public collectif qu'il faut protéger et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est un peu un appel à une mobilisation et une action collective de la part de l'ensemble des États qui nous ont donné le mandat en 1949.
Alors, ils vous ont donné le mandat, ils vous donnent de l'argent, mais vous vous heurtez, vous, au mur politique, au final, parce que la décision de Trump, elle va dans le même sens que sa décision de déclarer Jérusalem capitale. C'est une sorte de pression qu'il fait sur les Palestiniens. Et en face, il y a qui s'oppose réellement aux États-Unis et comment et en faisant quoi. Donc, votre marge de manœuvre, finalement, elle est de combien et elle dit quoi? Parce que quand on donne de l'argent aux réfugiés palestiniens, c'est aussi un acte politique.
Oui, bon, c'est d'abord assumer une responsabilité historique qui a été acceptée en 1949, qui est de dire le temps d'avoir une solution politique qui puisse permettre de résoudre le conflit israélo-palestinien et de trouver une solution digne.
Le temps d'eux, comme vous dites.
Oui, ouais. Et bien sûr que c'était jamais prévu d'avoir une organisation comme l'UNRWA étant en action et en activité pendant 68 ans. Et je vous dis du fond du cœur que mon objectif n'est évidemment pas non plus que l'UNRWA soit en activité encore pendant 60 à 70 ans à venir. Donc il est clair, l'action politique est essentielle. Et là, je pense que l'action de la France, l'action de l'Union européenne et d'autres pays est essentielle. On ne peut pas simplement regarder, observer cette situation et se dire que ça ne va pas avoir des conséquences sur l'Europe. Aussi, on l'a vu en 2015, lorsque des millions de Syriens et d'autres se sont déplacés en direction de l'Europe. Quand les problèmes du Moyen-Orient ne sont pas réglés, ça déborde aussi sur l'Europe. Donc les questions du Moyen-Orient sont des questions européennes. Et l'engagement de l'UNRWA, il faut le voir comme un investissement dans la dignité humaine, mais aussi dans la préservation des opportunités et de l'espoir de millions de gens au Moyen-Orient.
Mais c'est ça aussi le discours que vous tenez à des gens comme Emmanuel Macron, mais pas seulement. Attention, parce que si on ne peut plus s'occuper des réfugiés, ils vont tenter de partir. S'ils tentent de partir, c'est chez vous qu'ils iront. Est-ce que ça fait partie des choses, des arguments qui pèsent et que vous employez?
Je vous donne un exemple très concret. Le gouvernement allemand vient de conclure son accord de coalition. Le gouvernement étant maintenant sur pied, une référence spécifique est faite au travail de l'UNRWA dans cet accord de coalition, dans ce contrat de gouvernement. C'est une première et ça, il n'y a aucun doute que ça vient de l'expérience faite en 2015 avec l'arrivée de millions de réfugiés. Maintenant, il ne faut pas poser le paradigme en termes de « il vaut mieux maintenir les réfugiés à distance ». Tout réfugié a le droit de se déplacer s'il ne trouve pas une solution digne ou des services à la hauteur de ses attentes dans la région dans laquelle il se trouve. Mais je n'ai jamais rencontré de ma vie un réfugié d'abord qui voulait être réfugié et surtout pas qui voulait rester réfugié. Donc ce qu'il faut faire, c'est de soutenir les réfugiés dans les régions et leur permettre d'avoir le choix de poursuivre leur vie de manière digne dans les régions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. C'est ça. Et ça, c'est un investissement qui peut se faire à travers l'UNRWA.
Et en même temps, Monsieur Cranenbühl, est-ce que c'est pas aussi, en même temps, une occasion de repenser l'aide, la manière dont elle est distribuée, la penser plus en termes de développement que de pur don? Est-ce qu'il n'y a pas une occasion de remettre les choses à plat avec cet argent que vous avez en moins aujourd'hui?
C'est-à-dire, je vous suis sur l'aspect de réfléchir en termes de développement, parce que ma plus grande découverte, lorsque j'ai rejoint l'UNRWA après 20 ans au Comité international de la Croix-Rouge, où j'ai travaillé dans des différentes zones de conflit, c'était précisément le domaine de l'éducation. Parce que quand vous regardez les gens en termes classiques dans les conflits, vous les regardez en termes de victimes qu'il faut soutenir.
Et parce que ce qu'on vous dit, c'est « mais vous êtes une perfusion et vous n'avez cessé d'être une perfusion depuis 68 ans ».
Oui, mais
là, chiche qu'on est autre chose en fait.
Mais ça, je suis justement, ça c'est la perspective là où je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là, c'est que depuis 68 ans, nous investissons pas seulement dans la distribution d'aide alimentaire, mais dans l'éducation. Quand vous investissez dans l'éducation, vous contribuez à préserver les perspectives, développer les compétences, donner un horizon à toute une série de personnes. Et vous avez aujourd'hui 500 000 élèves dans nos écoles. Plus de 2 millions de personnes ont obtenu leur diplôme à travers les écoles de l'UNRWA. Vous ne pouvez pas remplacer ce système du jour au lendemain. Ça, c'est un investissement en termes de développement humain, pas... ce n'est pas un sparadrap que vous posez sur une situation ingérable.
Mais je vous pose la question parce que, par exemple, Gaza, qui est l'un des énormes problèmes aujourd'hui, il y a des écoles à Gaza, vous les financez, il y a des élèves à l'intérieur qui sortent diplômés, mais après, il se passe quoi? Il ne se passe rien à Gaza pour eux, en fait, parce que l'étage du dessus n'existe pas. Donc j'ai presque envie de dire, c'est terrible, de dire à quoi bon? Et donc pourquoi est-ce que cet étage de dessus, qui est l'étage de développement, ne peut pas exister? Pourquoi ce ne serait pas en partie votre rôle à vous?
Non, mais l'étage de développement, c'est justement, c'est l'éducation. Ce que vous voulez, ce que vous signalez, vous, et à juste titre, c'est une fois que les élèves sortent de nos écoles, quelles sont leurs perspectives de trouver un emploi? Alors là, les perspectives à Gaza sont effectivement extrêmement limitées. 65% de jeunes à Gaza sont au chômage. Mais ça, c'est pas parce qu'il manque un étage, c'est parce que il y a une dynamique d'occupation.
C'est vrai.
Parce qu'il y a un blocus qui est imposé, qui a tout simplement fait que des secteurs entiers de l'économie de Gaza ont été détruits et que vous n'avez aujourd'hui pas de perspective de trouver. Ça peut être réglé politiquement. Donc la question que je pose, c'est pas où est l'étage du développement, c'est où est l'étage politique. Pourquoi est-ce qu'on continue aujourd'hui en Europe notamment à toujours dire, à avoir une attitude sceptique vis-à-vis de la résolution de ce conflit sur la question de l'Irlande du Nord? On a été sceptique pendant des
décennies. Parce que
depuis
le temps que ça dure,
oui, mais sur l'Irlande du Nord jusqu'au moment où on s'est assis et on l'a discuté. Vous savez, l'être humain, moi je pense qu'il n'existe aucun Palestinien aujourd'hui qui souhaiterait obtenir plus d'aide alimentaire en échange d'une reconnaissance de leurs droits. Donc, agissons sur le terrain politique. Maintenant, d'un autre côté, l'action de l'UNRWA, ce n'est pas une action politique. Nous avons été mandatés pour le développement humain et pour le travail humanitaire. Nous le faisons avec beaucoup de conviction.
Effectivement, votre action n'est pas une action politique, mais vous êtes au cœur d'un jeu politique. Donc forcément, qu'on le veuille ou non, votre action devient politique, même à votre corps défendant finalement.
Oui, c'est-à-dire que c'est un environnement hautement polarisé, politisé. Ça, je vous le concède, on le vit tous les jours. Et c'est donc un travail très intense et très nécessaire de s'assurer que nous ne nous laissons pas entraîner dans les dynamiques de type politique. Parce que ce que nous voyons, nous, c'est le coût humain de l'absence de résolution politique. Ça, nous le voyons au quotidien. Et j'aimerais juste vous donner un exemple, parce que la souffrance n'est pas quelque chose d'anonyme. Quand je vois les élèves dans nos écoles, que je vois le courage qu'ils montrent tous les jours à se rendre dans les écoles, à poursuivre leur éducation. Nous avons perdu 2 élèves, par exemple, en Syrie, il y a 2 semaines, qui ont été tués dans des tirs de mortier alors qu'ils sortaient de l'école et sont rentrés à la maison. Eh bien, leur nom, c'est Kousaï et Bahin. Ce ne sont pas des êtres anonymes, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres avec des attentes qui étaient les mêmes que chacun d'entre nous. Et c'est ça que nous défendons, c'est le droit à ces élèves de poursuivre leur éducation et de le faire de manière protégée et sécurisée.
Alors il y a effectivement la Syrie, vous l'avez cité, il y a les camps en Jordanie, au Liban, il y a la Cisjordanie, il y a Gaza. Si Donald Trump effectivement ne rajoute plus au pot, si c'est fini en fait, si vous perdez ces 300 millions, qu'est-ce qui risque de se passer concrètement? À quel moment, jusque-là vous avez demandé des avances, donc vous n'avez pas fermé d'école, à quel moment vous serez obligé de le faire, fermer des écoles, fermer des dispensaires, peut-être licencier du personnel? À quel moment ça devient critique pour vous?
Alors à ce stade, et vous l'avez évoqué à juste titre, grâce aux contributions d'autres donateurs qui ont été avancés, donc c'était de l'argent attendu mais qui a été versé plus tôt, nous avons pu maintenir tous ces services en place. Le mois de mai va être critique parce que il nous manquera de l'argent pour maintenir nos écoles en opération, il nous manquera de l'argent pour nos cliniques et il nous manquera de l'argent pour tout le volet humanitaire d'urgence, la fourniture d'aide alimentaire à Gaza, le soutien critique en Syrie. Donc, la conférence qui a lieu la semaine prochaine à Rome doit déboucher sur des premiers résultats, doit déboucher sur des premières annonces financières concrètes de la part de toute une série d'États membres. Et ça, c'est un défi parce que, bien sûr, beaucoup de donateurs sont confrontés à une multiplicité de crises dans le monde. Il n'y a pas que la question des réfugiés de Palestine. Mais je dis simplement les conséquences de ne pas réussir à trouver une solution, de ne pas amener les Américains et d'autres acteurs à travailler ensemble pour surmonter ce déficit, ces conséquences vont être dramatiques sur un plan humain et je pense sincèrement aussi sur le plan de la stabilité régionale.
Alors, ça veut dire quoi sur le plan de la stabilité régionale? Disons les choses clairement, un enfant qui ne va plus à l'école à Gaza, est-ce qu'il se jette dans les bras du Hamas? Est-ce que c'est ça que ça peut vouloir dire?
Non, je pense que c'est pas aussi mécanico-automatique que ça, mais c'est simplement imaginer à Gaza. Donc, nous avons 270 000 élèves dans nos écoles. À la fin du conflit de 2014, 138 d'entre eux ne sont pas retournés dans les classes parce qu'ils sont morts pendant la guerre. Des centaines étaient blessés. Donc chacune des écoles a fait l'expérience du traumatisme, de la perte d'élèves, des blessures et autres. Si vous rajoutez à tous les éléments de pression qui aujourd'hui pèsent sur la population de Gaza, la perspective tout à coup de voir l'aide alimentaire s'interrompre ou les écoles ne plus être ouvertes, les tensions sociales, les tensions humaines, le niveau de frustration, d'angoisse vont tout simplement à un moment donné exploser. Avec ça, je ne veux pas dire que ça mène directement au conflit suivant. Ça, ce n'est pas mon propos. Mais on ne peut pas soumettre des populations à un tel cumul de pression sans leur offrir un horizon personnel.
Mais ça devrait inquiéter aussi les autorités israéliennes. Qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles répondent, elles, les autorités israéliennes?
Bon, on voit, pour ce qu'on peut voir publiquement, un mélange de messages, parce que nous avons, je pense, il y a beaucoup de reconnaissance et aussi de respect dans toute une partie de l'autorité des différents ministères israéliens pour le travail humanitaire que nous faisons, et notamment, c'est vrai, au niveau de l'armée. qui connaît bien la situation sur le terrain, qui l'observe et qui a exprimé publiquement aussi des préoccupations par rapport à l'impact de ces coupes. Mais nous avons aussi...
Le chef d'état-major même de l'armée israélienne a parlé d'une guerre imminente, a eu ces termes-là, ces mots-là, ce qui sont des mots très lourds quand même.
Ce sont des mots lourds et c'est pour ça que je ne vois pas dans, comment ça peut être dans l'intérêt de qui que ce soit dans la région. Donc un pays, mais donc une communauté, que nos services soient tout à coup interrompus par manque de financement. Et c'est un des messages que nous amenons dans les différentes capitales.
Une dernière chose, Pierre Cranenbühl, est-ce qu'il est complètement inenvisageable de vous fondre dans le Haut Commissariat aux réfugiés pour sortir de la spécificité palestinienne et peut-être vous aider justement en rentrant dans une autre bulle, en fait, dans une autre structure ?
Bon, c'est une réponse très longue, mais c'est... Pour faire court, il y a deux mandats très spécifiques qui sont protégés au sein de l'Assemblée générale. Donc et ça, ce n'est pas une question pour l'UNRWA ou pour son commissaire général, c'est une question pour l'Assemblée générale. Maintenant, il y a une expérience, une expertise opérationnelle qui est incomparable en ce qui concerne la fourniture, par exemple, de services quasi-étatiques comme l'éducation, ce que ne fournit pas le Haut-Commissariat aux réfugiés. Ne travaille pas sur ces domaines-là. Et donc, il faudrait un modèle totalement différent, qui n'est pas envisagé et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, n'est pas à l'ordre du jour.
Voilà, on a bien compris, en tout cas, l'importance du rendez-vous de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pierre Cranenbühl, qui dirige l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
Merci
une
vous.
Fois.
France Inter, Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Et la suite d'un jour dans le monde, Chous, sur les pistes du Haut Atlas, le ski au Maroc a toute la neige qu'il faut, des montagnes magnifiques, il manque les infrastructures. Florence Paracuelos et sa bouteille à la mer retrouvée sur une plage australienne. Eva Bétan et le cinéma en VO, très italienne ce soir, Eva.
Oui, deux films italiens. Alors le cinéma, ça vous donne une autre approche d'un pays. L'un d'eux parle notamment de la question des migrants.
Et on verra ça tout à l'heure ensemble. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne,
le
bonsoir à tous.
Le monde à l'envers, la Sierra Leone est étonnamment un pays où il fait bon voter.
Ben oui, c'est un pays où on peut avoir connu la guerre, les épidémies, connaître encore la grande pauvreté et néanmoins pratiquer la démocratie avec bonheur, comme aujourd'hui, où l'on vote dans la petite Sierra Leone.
Et on voit ça tout à l'heure à 18h55. À tout de suite, le tour de la planète continue sur France Inter en passant par Manchester avec Franz Ferdinand, Lazy Boy.
I'm a lazy boy, I'm a lazy boy, never getting up in time. I enjoy being a lazy boy. Lying in your bed, thinking of how a lazy boy loves you.
Quel feignant, c'est Franz Ferdinand, mais c'est comme ça qu'on les aime, merci.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un
jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence Paracuelos sous les radars. Demain, Florence, c'est donc la journée pour l'égalité des hommes et des femmes, et c'est un jour férié en Russie.
Le 8 mars, journée internationale des femmes, décrétée par Lénine en 1921 en mémoire du soulèvement des femmes à Pétrograd dans la semaine qui a précédé la révolution russe. Ça en fait une sorte de fête des femmes. En Russie, on leur fait des cadeaux. C'est devenu un gros business, type fête des mères. C'est pas du tout une journée de revendication féministe, mais il faut marquer le coup, surtout quand on est en campagne pour sa réélection dans 10 jours. Vladimir Poutine a donc anticipé aujourd'hui. Il a visité une boulangerie industrielle de la Volga, dont 90% des travailleurs sont des travailleuses. Il a enchaîné avec une table ronde de femmes chefs d'entreprise et leur a livré ce message plein de bon sens.
Для того, чтобы быть или крупным акционером, или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем.
Pour être un actionnaire important, un patron, il faut avoir des qualités particulières, dit Poutine, et d'abord savoir être un leader. Il me semble que pour les femmes, c'est tout à fait naturel. C'est peut-être même un avantage d'être une femme, parce qu'après tout, les hommes, pour ainsi dire, sont plus rigides. Et si les qualités de leadership sont combinées avec les traits de caractère typiquement féminins, les résultats sont souvent bien meilleurs que ceux des hommes forts. Ode à la réussite des femmes à la mode russe. Dans un pays qui a été à l'avant-garde du droit des femmes, elles ont le droit de vote depuis 1917, le droit d'avorter depuis 1920. Le pays a été le premier au monde à l'autoriser. Les femmes à l'usine et au champ dans l'imagerie soviétique. Aujourd'hui, les autorités auraient plutôt tendance à vouloir les ramener à la maison pour faire des enfants et inverser la pyramide des âges. Les mouvements anti-avortement sont en plein essor, poussés par l'Église orthodoxe qui a joué un rôle majeur l'an dernier dans le vote d'une loi qui paraît totalement anachronique. En 2017, les violences domestiques ont été dépénalisées en Russie, donc battre sa femme ou ses enfants, c'est simplement passible d'une amende.
Allez, maintenant c'est l'histoire d'une balade en famille sur la plage qui aboutit à une découverte incroyable qu'on aimerait tous faire.
Et oui, une bouteille sur le sable d'une plage de l'ouest australien, une promeneuse qui se dit qu'elle serait du meilleur effet sur sa bibliothèque. Elle est rectangulaire, un peu comme une bouteille d'huile d'olive, mais c'est beaucoup mieux que ça. Il y a un message à l'intérieur de cette bouteille. La famille Hillman, en balade, rentre chez elle, met le papier au four pour le faire sécher et découvre une date, le 12 juin 1886, et une instruction: contacter le consulat d'Allemagne. La famille contacte alors plutôt les musées australiens qui le leur confirment. Ils ont bien récupéré une bouteille jetée à la mer il y a 132 ans, ce qui en fait la plus ancienne bouteille récupérée à ce jour, larguée par le Pola, un bateau allemand dans l'océan Indien, dans le but de comprendre les courants marins et d'améliorer les routes maritimes. Le père de la famille s'est totalement passionné pour cette histoire. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'informations écrites sur le message qu'on a pu les comparer avec ce journal météorologique du bateau. Et c'est exactement la même écriture. Donc je pense que c'est le capitaine du bateau qui a écrit le message, qui l'a mis dans la bouteille, qui l'a jeté à la mer avant de le consigner dans son journal. Des bouteilles comme ça, l'observatoire allemand à l'époque en a jeté des milliers, l'observatoire marin, des milliers fin 19e, début 20e siècle. Celle-ci est la 663e à avoir été retrouvée. La dernière, c'était en 1934.
J'ai envie de dire que fait la police, mais non, je ne peux pas le dire finalement.
Alors, la seule déception de cette histoire, c'est qu'on aurait aimé un SOS. Ça aurait été bien plus romanesque. Bon,
bah non,
c'est un message.
finalement, c'était
de l'observatoire
maritime.
N'oublie
pas de penser à prendre le pain, voilà. Ou je ne sais quoi de ce genre. Merci beaucoup, Florence Paracuelos. Vous revenez demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et si je vous emmenais au ski, tiens, cette saison, la neige est bonne cette année, mais oubliez les Alpes, oubliez aussi les pistes par centaines, faut pas pousser. Non, c'est au Maroc que nous allons, dans le Haut Atlas, où le tourisme et cette percée au ski. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir Fabienne.
Nous sommes à 2600 mètres d'altitude ou un peu plus, une station de ski donc la plus haute d'Afrique, 5 remontées mécaniques, une vingtaine de pistes. 10 ans que cette station existe, elle mériterait de se développer plus pour vraiment attirer les Marocains. Et c'est ce qu'on voit ensemble, Stéphanie.
Thank you.
Nous sommes à 1h30 de Marrakech, au bout d'une route sinueuse, des montagnes couvertes de neige. Voici la station d'Oukaïmden, un petit village à 2600 mètres d'altitude dans le massif de l'Atlas. Des pistes bleues, rouges et même une noire, un télésiège qui monte à 3600 mètres et une vue splendide sur la plaine du Haouz.
Bonsoir, numéro 9, au départ. Idihia Rida de la Haussem. 3, 2, 1, go!
Ce dimanche, le club alpin français, créé au Maroc en 1922, organise une compétition. La plupart des clubs de ski marocains ont décidé d'y participer. Ils viennent parfois de loin, comme le ski club d'Ifrane, une station plus modeste située à plus de 400 km. Hassan El Rams, trésorier du club.
J'ai ramené à peu près 26 bonhommes, jeunes filles et jeunes garçons. Hier, ils ont fait un peu d'entraînement. Aujourd'hui, ils vont faire la compétition. Il y en a quelques-uns qui le font pour la première fois.
C'est le cas de Sim Hamed, le bonnet bien enfoncé sur les oreilles. Il est prêt pour son premier slalom.
Je viens pour participer à la compétition. C'est la première fois pour moi, mais je n'ai pas peur. J'ai commencé le ski à l'âge de 6 ans. Moi, j'ai 12 ans.
Il y a peu de remontées mécaniques à Ifrane, ou alors elles sont souvent en panne. Alors ici, Dina, 10 ans, est bien décidée à en profiter.
Je fais du ski depuis que j'ai 5 ans.
Et qu'est-ce qui te plaît ?
Téléski.
J'aime pas du tout remonter les pistes de ski à pied, mais j'adore les pistes noires.
Elle a la piste noire.
Le matériel, les forfaits, tout cela a un coût. Pourtant, comme l'explique Hassan El Rams, le ski au Maroc n'est pas seulement réservé à une élite.
Non, c'est pas les milieux favorisés, non. C'est tout d'abord question de proximité. Les gens qui habitent les villes qui y sont enneigées. Notre équipe, il n'y a pas un seul riche. Voilà des montagnards, c'est tout à fait question de proximité. Quand ils sont auprès de la neige, on leur donne une paire de skis, et l'année d'après, on trouve un skieur.
Dossard, numéro 11 au départ. Dossard, numéro 11.
Mohamed Didali, dans son talkie-walkie, annonce les partants. Le président du club local souligne les progrès, comme l'interdiction du télésiège aux piétons, désormais réservé aux skieurs. Cela évite les bousculades. Mais il y a encore beaucoup à faire, selon lui.
Les PC sont déjà homologués par l'AFIS, la Fédération internationale du ski. Donc ils ont homologué une piste pour le slalom et une autre pour le slalom géant. Mais il nous manque les moyens techniques, comme les dameuses ou bien des fois la neige arrive en retard. Donc il faut prévoir des canons à neige à l'avenir.
Plus bas règne une chaleureuse ambiance de kermesse. On s'essaye au ski en djellaba, des luches fabriquées à partir de skis dévalent les pentes, manquant de faucher des piétons qui escaladent les pistes. Les mulets transportent les skieurs, bardés de leur matériel, au bord de la route, tout se loue. Les skis bien sûr, mais aussi les moufles et les combinaisons. Les stands proposent du jus de grenade frais ou des escargots dans une soupe à la girofle. La station a des airs de souk, on trouve du miel de montagne et même des bijoux. Cette ambiance si particulière est aussi ce que recherchent les touristes, surtout marocains, qui viennent ici. Simo, par exemple, habite à Casa, à 4 heures de route. C'est un habitué. S'il aime skier en France ou en Espagne, il vient régulièrement à Oukaïmden.
Ben oui, c'est vrai, il faut que ça garde son charme. Nous, on est jaloux de cet endroit. Mais après, voilà... Il faut dire aussi qu'il y a une population ici qui peut être intéressée à développer l'activité, qui peut mieux vivre. Nous, ça fait que des week-ends, mais pour eux, c'est vraiment quelque chose qui peut les faire vivre pendant toute l'année. Donc, j'espère qu'il y aura des plans dans l'avenir pour faire développer cette activité ici, pas loin de Marrakech, parce qu'il y a beaucoup de potentiel.
Le développement de la station pour vivre de sa passion, c'est ce qu'espère Saïd, 28 ans. Il est d'un petit village des environs sur les skis depuis ses 15 ans. Il est moniteur depuis 7 ans, pas officiellement. Comme beaucoup de gars du coin, il s'est formé tout seul, mais enseigne plus que le planter du bas.
Je travaille quoi, 2-3 mois pendant l'année, en fonction de l'enneigement, et puis c'est tout. Et pas vraiment en dehors du week-end. C'est surtout là qu'il y a du monde. Le mardi, le mercredi, les autres jours de la semaine, j'ai pas beaucoup de clients. Le week-end, je gagne peut-être quoi, 25-30 euros la journée. Nous, on demande qu'un étranger ou une étrangère vienne gérer la station. Les Marocains ne font rien, la station est négligée. Comment quelqu'un qui veut skier peut-il s'amuser? Forcément, il y a des accidents. Et ça, c'est pas bon pour eux.
retour à la compétition. À la porte d'arrivée, les chronos sont scrutés de près. Cette année, deux athlètes ont participé aux JO d'hiver en Corée du Sud sous les couleurs du Maroc, en ski alpin et en ski de fond. Mais faute de structure, ces sportifs qui vivent à l'étranger ne s'entraînent pas sur place. À Hokkaimeden, ce matin, Aya, 16 ans, a réalisé le meilleur temps chez les minimes filles. Si elle est consciente des limites de son sport dans son pays, elle ne s'empêche pas d'y croire.
26-63, numéro de sort.
Moi, je fais mes entraînements ici à Hokkaimeden, parfois à Ifrane. J'adore les skis et les télésièges, un peu de boxe, la vitesse surtout. Mais en Maroc, les pistes n'ont pas d'amée. On n'a pas la chance d'avoir trop de vitesse. Mais c'est un rêve qui est très loin.
De quoi ?
D'aller aux Jeux Olympiques. Pas tous les Marocains ont la chance de faire du ski, de faire des compétitions internationales. C'est pas tout le monde.
Mais ce sera peut-être toi.
Peut-être. J'espère, Inch'Allah.
Allez, on l'espère aussi pour elle et on croise les doigts. J'aurais noté quand même que ce sont des escargots et de la soupe de girofle qui font office de fondue. Et c'est pas mal aussi, Stéphanie Wenger. Merci beaucoup dans la station de ski la plus haute d'Afrique pour un jour dans le monde. Voici Souchela Rahman, Trust in Me. Man, trust in me, j'espère que ça vous a pas endormi. En tout cas, nous pas trop, ça va dans le studio.
3, 2, 1, moteur. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action,
le cinéma en VO, comme tous les mercredis. Eva Bettan, deux films italiens qui sortent cette semaine, alors qu'on parle beaucoup d'Italie, forcément, oui. À cause des élections qui ont eu lieu la semaine dernière. Mais un des films justement dont vous allez parler, évoque un problème très chaud pour les Italiens, c'est celui des migrants. Le film s'appelle L'ordre des choses, signé Andrea Segre. Bonne annonce d'abord, Eva.
Oui.
Finalmente, Rinaldi, benvenuto a Tripoli.
Ciao, ragazzi, come stai?
Bienvenue à Tripoli, a-t-on entendu ?
Oui, et on n'avait jamais vu la question des migrants abordée de ce côté-là de l'histoire en quelque sorte. C'est comment les Européens veulent contenir les migrants sur le continent africain. On en a entendu parler, mais ça demeure une option, une notion abstraite. Et là, en quelque sorte, on est dans le concret. C'est une fiction, mais le réalisateur précise que la réalité sociale et l'environnement qui les produit sont en revanche exacts. Les gens en ont marre, dit le ministre italien à un sort de supplément. super flic. Ils en ont marre de cette question des migrants. Donnez-moi une bonne nouvelle, a annoncé aux médias. Et il l'envoie en Libye négocier avec les Libyens pour qu'ils maintiennent les migrants sur son sol. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenir, retenir? C'est un euphémisme. Quand ce super flic, en quelque sorte ce négociateur, va avec un homologue français, ça ne concerne pas que les Italiens, visiter un centre de détention de migrants qui existe déjà en Libye, c'est atroce. Les conditions de vie sont horribles. C'est un déni aux droits de l'homme. Et c'est pourtant avec les gens qui gèrent ce camp-là que l'on va négocier. Avec des sortes de milices, il n'y a pas de pouvoir avec lequel on négocie. Il y a aussi un côté tribal. On négocie ici avec l'un, là avec l'autre. Et en fait, soit par la pression, mais surtout par l'argent, ça consiste à dire on vous donne beaucoup d'argent et vous nous rendez ça un peu mieux. Que ça passe à peu près, que ce soit présentable. Il y a un élément romanesque qui va intervenir, c'est que dans ce centre de détention, une jeune femme va réussir à émouvoir en quelque sorte le policier. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, c'est juste qu'à un moment donné, elle devient une personne. Et c'est le procédé classique quand on a affaire à des machines qui broient, qui est que l'humanisation permet de devoir affronter la question morale. C'est plus des nombres, c'est plus des gens, c'est des personnes. Alors, le film est un peu schématique et à un moment donné, on se dit, ça manque de tension dramatique. Et on se dit, mais on est idiot. Heureusement que ça manque de tension dramatique parce que dans la réalité, probablement, c'est dans la banalité que se prennent des décisions terribles.
Ça s'appelle L'ordre des choses et c'est signé Andrea Segre, Eva. Le deuxième film dont vous voulez nous parler ce soir s'appelle Il Figlio Manuel et signé Dario Albertini.
Un petit coup de
c'est ça, c'est ce que je voulais dire en pointant mon doigt.
Come sta Emanuele? La bomba.
Alors, qui est ce Manuel ?
La bomba, tu parles. Alors là, c'est une affaire beaucoup plus intime. Ça pourrait se passer dans beaucoup de pays. D'ailleurs, certains enfants sont obligés de grandir vite. Manuel, c'est un grand type baraqué. On fait connaissance avec lui dans un foyer d'accueil où il vit. Et on sait que la raison pour laquelle des enfants sont dans un foyer d'accueil n'est rarement heureuse. Et pourtant, c'est ça, une des choses que je trouve très étonnante dans son film, c'est que sans idéaliser, mais le réalisateur nous montre qu'il y a aussi des belles choses dans un foyer. Les gens, les enfants ont passé des années cruciales de leur vie. Il y a des liens qui se créent. Quand Manuel a 18 ans, quand le film commence, le prêtre l'accompagne au train et il lui dit « C'est le jour le plus important de ta vie et tu t'en souviendras toujours ». L'autre idée qui est très belle, qui est très forte, c'est d'inverser les codes du film d'initiation. Un film d'initiation, c'est je grandis, je parcours des étapes, je m'émancipe et je vis ma vie d'adulte. Lui, il n'a pas de bol. Il a 18 ans, il doit devenir le tuteur de sa mère qui est en prison pour qu'elle puisse finir sa peine en liberté surveillée. Il faut qu'il y ait un adulte qui, vis-à-vis de la justice, s'occupe d'elle. Il est le seul adulte possible. Et donc, il sort d'une forme d'enfermement, en quelque sorte. Il pourrait enfin être un homme libre. Et il va dans un enfermement volontaire. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que ça ne passe pas par des mots. Ça passe par cette sorte de présence-absence. Quand des gens viennent vers lui, quand il rencontre une fille, quand il rencontre des gens, on voit qu'il y a comme une vitre entre lui et le monde, comme s'il n'était pas autorisé à vivre. Et nous, on est dans cette position terrible de ne pas savoir ce qu'on doit souhaiter pour lui, de se sauver ou d'être enterré vivant au nom de la mère et du fils.
Allez, donc Dario Albertini qui signe ce Il Figlio Manuel. Merci beaucoup, Eva Bettendre, Un Jour dans le Monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers. Comme tous les soirs, Jean-Marc, ce soir, vous nous emmenez dans un tout petit pays d'Afrique de l'Ouest qu'on a un peu oublié, on en avait beaucoup parlé à une époque, la Sierra Leone. Et aujourd'hui, en Sierra Leone, aujourd'hui mercredi, on vote. Et ça a attiré votre attention dans le monde à l'envers parce que voilà un pays qui avait tout pour être une dictature. Aujourd'hui, ma foi, c'est l'incarnation d'une démocratie africaine. Et il n'y en a pas tant que ça.
Oui, exactement. En théorie, la Sierra Leone réunit tous les ingrédients d'abord pour incarner l'Afrique comme beaucoup d'Occidentaux la caricature, c'est-à-dire la guerre, la maladie, la pauvreté. Bon, d'abord, si vous ne savez pas où est la Sierra Leone, c'est normal, c'est une ancienne colonie britannique, c'est un tout petit pays, vous l'avez dit, d'Afrique de l'Ouest. En gros, entre le Sénégal au nord et la Côte d'Ivoire à l'est, 6 millions d'habitants, 70 000 km², c'est-à-dire la taille d'une région française. Si ça ne vous dit rien, la Sierra Leone, alors j'ajoute le mot Ebola. Et là, ça devrait vous dire quelque chose. Vous vous souvenez de ce début d'épidémie qui a fait peur à toute la planète il y a 4 ans. Finalement, le virus Ebola avait été circonscrit dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, mais il a fait 4000 morts en Sierra Leone. Et la maladie a paralysé le pays. L'activité économique a reculé de 20%. La Sierra Leone n'avait pas vraiment besoin de ça, puisqu'elle se remettait à peine du drame précédent, c'est-à-dire une guerre civile épouvantable qui a duré 10 ans jusqu'en 2002, avec enfants soldats, massacres de civils, au moins 120 000 morts. Et aujourd'hui encore, c'est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde. Chômage massif, mortalité infantile et, allez, pour faire bonne mesure, la corruption. Selon la Croix-Rouge, près de 2 millions de dollars destinés à la lutte contre Ebola ont été détournés. N'en jetez plus. Donc effectivement, sur le papier, la Sierra Leone aurait tout pour être une dictature.
Sauf que non, c'est même devenu une forme de modèle démocratique.
Et le scrutin d'aujourd'hui se déroule jusqu'à présent dans le plus grand calme. Selon les rares journalistes présents sur place, les électeurs ont commencé très tôt à s'installer paisiblement devant les 2700 bureaux de vote et la participation s'annonce élevée. Alors même que les électeurs doivent d'ailleurs désigner non seulement leur président, mais leur maire, leurs conseillers municipaux, etc. Ça se passe pas très bien dans ces cas, dans un pays que vous connaissez bien, les États-Unis. Ça dissuade les électeurs. Eh bien, pas en Sierra Leone. En fait, depuis la fin de la guerre civile en 2002, la démocratie s'est imposée. Et le président sortant montre l'exemple. Ernest Bai Koroma, c'est son nom, a fait 2 mandats. La constitution interdit qu'il y en ait un troisième. Il arrête. Et ses voisins de la région, hein, soit dit en passant, le Cameroun particulièrement, seraient bien inspirés d'en faire autant. Ça ferait un pas en avant pour la démocratie. 16 candidats cette fois-ci en Sierra Leone, dont 2 femmes. Parmi les prétendants figure par exemple un ancien militaire qui a rendu le pouvoir aux civils après un putsch, c'est quand même pas très fréquent, et un ancien fonctionnaire de l'ONU qui a développé une stratégie offensive sur les réseaux sociaux. Parce que oui, nous parlons en plus d'une campagne qui se joue avec les attributs de la modernité, Internet et la télévision, avec un grand débat télévisé pendant 3 heures il y a 15 jours.
Alors en même temps, Jean-Marc, la démocratie, évidemment, c'est formidable. Maintenant, il faut que tout ça s'accompagne de résultats économiques et sociaux.
Et c'est en cela aussi que la Sierra Leone est un pays emblématique pour tout le continent africain. Pauvre, on l'a vu, et en même temps très riche. C'est toute l'histoire. Des terres agricoles en pagaille, un port naturel en eau profonde, des plages de sable blanc pour séduire, les touristes. Et du coup, qui voilà ? Les Chinois, plus de 30 sociétés chinoises, désormais installées à Freetown, la capitale, pour construire autoroutes, barrages, hôpitaux, aéroports, etc. Ça paraît formidable, mais il y a un hic. Ça crée peu d'emplois pour les Sierra Leonais, parce que les compagnies chinoises viennent souvent avec leurs ouvriers chinois. Et puis surtout, il y a le sous-sol. Le fer, l'or, les diamants, beaucoup de diamants. C'est le contrôle de ce sous-sol qui a provoqué la guerre, avec un rôle trouble des compagnies minières étrangères, sud-africaines en particulier. On estime, tenez-vous bien, que la valeur totale des diamants extraits dans le pays depuis 70 ans s'élève à 20 milliards de dollars. Il n'est pas allé dans la poche des Sierra Leonais. Là encore, le sujet, c'est donc le contrôle économique. Le pouvoir peut-il imposer un peu de transparence aux compagnies minières ? On va finir sur une note d'optimisme. En décembre dernier, le dernier né des mines du pays a été vendu aux enchères à New York. 700 carats, 140 grammes, 6,5 millions de dollars récoltés, dont les 3/4, c'est une première, ont été versés dans les caisses de l'État. Du coup, on l'a surnommé le diamant de la paix. Tenez Fabienne, je vous l'offre, enfin, en photo. Hein.
Ouais, ça m'étonne pas de vous. Il est pas mal.
Il est pas mal. Hein.
Il est un petit peu rouge au milieu. Allez, Jean-Marc Four. Jean-Marc Four, le monde à l'envers. Merci beaucoup.